Bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode de Podculte. Vous êtes nombreux à nous écouter et nous sommes ravis. Alors, aujourd'hui, nous avons pas mal d'intervenants qui viennent de tous les horizons. Alliance et Horde, ça fait déjà ça. Alors, nous avons Kalyan avec nous, toujours notre chroniqueur beauté.
Bonjour.
Nous avons Varka, le chroniqueur histoire.
Salut.
Nous avons également Albertan, qui est le GM et grand dirigeant de la fierté de Crowley.
Bonjour.
Nous avons également Svalgir, un officier supérieur de la Nazgul SARL.
Salut.
Nous avons bien sûr Siana.
Bonjour.
Et nous avons Arcia, notre ingé son. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. Déjà, en premier sujet, nous allons faire notre fameux débat où nous allons parler de la possibilité de combiner RP et PVP à haut niveau. Est-ce une possibilité ou est-ce une utopie? C'est une question que certains peuvent se poser et ça peut freiner certains joueurs à aller faire du RP. Nous allons parler aussi du sujet de fond qui est le serveur et son histoire, c'est-à-dire quelle a été son évolution au cours du temps d'un point de vue RP, avec les interactions des différentes guildes et, entre guillemets, personnages importants. Nous avons donc notre rubrique Père Varka, et nous avons une rubrique ouverte qui est remplie à foison de sujets tous plus intéressants les uns que les autres. Nous allons commencer déjà en vous disant bravo et bienvenue au nouveau cardinal de Hurlevent, qui est un gnome, mais bon, c'est toujours intéressant, hein. Les humains sont très drôles. Ça c'est fait. Passons au débat. Donc, combiner le RP et PVP à haut niveau. Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le PVP à haut niveau? C'est vrai que certains vont se dire c'est juste taper sur l'ennemi en groupe, mais il y a certains codes à respecter.
Le PVP, il est assez varié, ça peut aller de l'arène, ça peut aller au champ de bataille, ça peut aller au champ de bataille côté, ça peut aller au jeu de guerre. Donc c'est quand même une activité assez riche qui est possible, tout en incluant aussi forcément le PVP sauvage et les journaux PVP. Donc c'est quand même une activité très riche, et là-dedans, où se trouve le RP, quel est son intérêt, ou à quoi on peut le conjuguer, c'est des questions qu'on va aborder tout de suite.
C'est vrai que une question qui peut se poser, c'est en quoi le fait de farmer, entre guillemets, une capitale ennemie est RP. Enfin, jusqu'à quel point peut-on considérer ça comme RP? À quel moment faut-il s'arrêter dans après la description de l'histoire? Parce que d'un point de vue technique, on ne peut pas réellement prendre possession d'une ville. Parce que la mécanique du jeu fait que ce n'est pas possible. Mais jusqu'à quel point peut-on aller? Quel est cet intérêt?
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en RP? C'est de pouvoir dire que certaines organisations, certains clans sont arrivés à rassembler une force armée suffisante pour pouvoir mettre en danger une capitale ennemie. Au moins l'envahir ou envoyer des troupes à l'intérieur et pouvoir mettre en danger, j'ai envie de dire, une puissance régnante, une faction. Concernant là-dessus, le PVP, ça sera annexe, ça sera difficile de faire beaucoup de RP en même temps qu'on sera en train de tuer les alliés d'un capital, on risque d'être pas mal occupé ou les hordes. L'enjeu est vraiment de se positionner. Quelle est la mission RP qui va être donnée derrière? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut considérer que la mort du roi de Hurlevent est RP ou de l'Orthema? Je pense pas. Il faut savoir garder mesure et prendre des objectifs secondaires, par exemple dérober des livres dans la bibliothèque des mages d'Hurlevent, récupérer les artefacts à lune argent, etc. Il faut se donner des objectifs secondaires de manière à ce que ça a un intérêt, mais que la fin en soi de l'assaut sur la capitale ne soit pas juste aller tomber le boss ennemi.
Qu'en pense l'Alliance?
Donc au niveau du PVP, personnellement, j'ai jamais beaucoup fait de PVP vraiment à HL, mais j'avoue que PVP qui peuvent se mêler au RP, c'est toujours intéressant de toute façon. Et puis, même si on n'est pas stuff, on peut s'amuser quand même.
Le PVP peut servir le RP d'une guilde s'il est fait à bon escient.
Par exemple, si jamais il y a une guilde qui se forme, qui est une compagnie de mercenaires, il peut être intéressant, effectivement, pour elle, de dire qu'elle a les moyens de porter la guerre aux portes de la capitale de l'Alliance, et faire valoir donc sa puissance. Le PVP, donc, c'est une chose qu'il vaut mieux aborder en faisant en sorte que la majorité des membres aient au moins des capacités là-dedans. Parce que une guilde qui se voudrait être une grande armée, mais qui, dès qu'elle va se retrouver en événement, va se retrouver complètement désemparée, aura un RP qui aura du mal à tenir debout.
Oui, je pense notamment que tuer le roi niveau RP, c'est complètement stupide. Mais par contre, par exemple, on pourrait prendre un point de la ville, et effectivement, comme ça a été cité précédemment, on peut avoir des objectifs secondaires, comme aller chercher, oui, effectivement, un livre à la Tour des Mages ou toute autre chose. Mais tuer le roi, non, ça c'est... Après, concernant les arènes et autres, c'est limite impossible de faire du RP en arène. Hein. Tu viens dans l'arène, c'est pour taper, hein, c'est pas pour discuter.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, en parlant d'arène, de champ de bataille, etc., une chose qui est intéressante d'un point de vue PVP et RP est un outil qu'a mis Blizzard à notre disposition. C'est les jeux de guerre qui permet d'avoir accès à un endroit qui correspond à du PVP de haut niveau, mais tout en gardant une certaine de RP contrôlée. Est-ce que c'est une bonne chose d'après vous, ces jeux de guerre et cette utilisation des jeux de guerre en RP?
Moi j'ai été séduit par l'outil, j'étais très surpris de voir l'ampleur de ce qu'a fait Blizzard et finalement, ben. Comme il est utilisé, c'est-à-dire très peu aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour les guildes RP, notamment pour pouvoir faire des batailles entre guildes, pouvoir faire des guerres, des accrochages, des conflits, parce qu'on aura vraiment le temps de se poser, de faire comme un event RP, j'ai envie de dire, sauvage. Event RP, PVP sauvage, sauf que là, la différence, c'est que tout est sous contrôle, c'est un environnement qu'on contrôle. Les joueurs qui se joindront à nous, c'est aussi des joueurs, on sait, on connaît la liste, etc. Donc il n'y a pas tous les problèmes des équilibres qu'on peut rencontrer dans Event RP, PVP sauvage. Et il y a un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire d'avoir des règles claires et simples sur le règlement du conflit.
Oui, ça évite l'intervention d'une guilde spécialisée dans de la farming qui va s'amuser à dépeupler les joueurs pendant leur event, tout simplement. Ce qui est aussi une donnée intéressante, c'est sûr, c'est les aléas du combat, mais est-ce que ces aléas sont vraiment à prendre en compte en RP ou non? Enfin, à mon avis.
Pour moi, le PVP sauvage, il y a un intérêt, c'est que ça permet aussi voilà, de brasser de manière large les autres joueurs, de pouvoir un petit peu... se confronter sur la réalité du terrain. Alors il peut effectivement aller chercher les alliés de dernière minute, en urgence, etc. Il y a un côté plus spontané, mais effectivement il y a le côté troublion aussi de certaines guildes PVP qui se feront un plaisir de venir à mettre leur grain de sel. Alors lors d'une dernière grande bataille PVP RP, c'était un carnage sur le culte parce que finalement il y a beaucoup de gens qui sont venus en interserveur pour cette bataille. Ça a été un gros rassemblement de factions. Certes, c'était très sympathique, mais le gros problème qui était, c'est que c'était tellement phasé, le serveur de Blizzard n'ont pas tenu la charge. Donc comment ils ont fait? Ils ont phasé. Donc en fait, on voyait toujours en permanence que 5-6 joueurs en face de soi. Donc c'était vraiment catastrophique, pour dire de manière simple, pour moi en tant que joueur, parce que finalement, tout le plaisir d'avoir du PVP sauvage et d'avoir une dizaine de joueurs, il n'était pas là. Donc finalement cet outil là remplit bien sa fonction de jeu de guerre dans un environnement où finalement les serveurs Blizzard ne suivent plus aujourd'hui les combats PVP de masse, de pouvoir faire des événements peut-être plus organisés, mais aussi avec moins de difficultés techniques peut-être derrière.
J'ai juste une question par rapport au jeu de guerre. Est-ce que les deux équipes qui parlent en slash dire, elles peuvent s'entendre?
Ouais.
Alors c'est une très bonne question parce que en effet, alors Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est un jeu de guerre entre membres de la même faction, on peut voir ce qui est dit en slash dire, en slash créer, mais également par le canal général de la zone. C'est-à-dire que on peut vraiment faire une description, on peut vraiment faire du RP dans ces conditions-là. On n'aura pas la barrière de langue entre les membres d'une même faction, ce qui est toujours très intéressant. Sachant que par exemple, il faut prendre des cartes après, le mieux, n'ayant pas une limite de temps. Comme ça, ça permet d'avoir plus de largesse pour organiser son event, comme par exemple prendre l'île des conquérants, où le seul moyen de victoire sera tuer le chef de la faction adverse, ou tuer le bon nombre d'ennemis en face. Donc, ce qui permet quand même d'avoir un espace assez grand, permettant de bonnes interactions et voilà.
Je pense personnellement que les jeux de guerre offrent une énorme possibilité pour le RP PVP. Le fait de pouvoir utiliser des engins, chose que l'on ne peut pas faire hors jeu de guerre, ça permet. Comment expliquer ça? C'est plus stratégique.
Oui, alors aussi, il y a un avantage des jeux de guerre qu'on n'a pas pu évoquer, c'est le fait qu'il n'y a pas de contestation. C'est-à-dire que en PVP, RP, on a toujours le problème de savoir celui qui rentre d'un cimetière, est-ce qu'il a le droit de raid, est-ce qu'il n'a pas le droit de raid, est-ce que voilà, est-ce qu'on a le droit de faire des raids combats, etc. Il y a beaucoup de règles qui sont nécessaires dans un event RP PVP selon les joueurs, selon les guides, et là on n'a pas tous ces problèmes-là. Globalement, on peut se foutre sur la gueule assez joyeusement dans les règles prévues par le système.
Bien sûr, le problème qu'il faut noter, c'est certes une organisation, mais l'impossibilité d'imprévu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rejoindre l'événement en cours de route. Ce qui est quand même un point un peu négatif par moment.
Certaines guildes peuvent se permettre de faire attendre pour qu'il y ait des renforts. Une autre chose concernant le jeu de guerre, après, ça je suis pas tout à fait au courant, n'y a-t-il pas une limite base de joueurs pour y participer ?
Si, tout à fait. Il y a un minimum requis, malheureusement.
C'est combien?
Sachant qu'on peut être. On n'est pas obligé d'avoir le même nombre de personnes dans les deux camps. Et il y a une limite maximum qui change selon les. Et bien sûr, ces deux données changent selon le jeu de guerre auquel on voudra participer. Par exemple, pour l'île des conquérants ou la Vale d'Alterac, il faudra un minimum de 10 joueurs par équipe et un maximum de 40 joueurs par équipe. Aussi, un point négatif, c'est que il n'y a pas de différence de niveau possible. Certes, cela va arranger les joueurs, parce que des niveaux 85 n'auront pas forcément envie de se frotter à des niveaux 90, mais ça limite quand même les possibilités en termes de présence de joueurs. Parce qu'il faut que ce soit du même palier pour pouvoir interagir. Il faut juste que ce soit des personnages du même palier, ce qui est assez contraignant. Passons maintenant à l'histoire d'un serveur. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son importance? De quoi je parle? Tout le monde se pose la question. C'est-à-dire que les serveurs RP ont une certaine histoire. Au cours du temps, il y a eu une évolution, il y a des événements qui se sont créés et qui ont fait évoluer l'histoire propre du serveur. Ce qui rend chaque serveur RP unique en son genre. Car les événements n'ont pas été les mêmes et n'ont pas eu le même impact sur la communauté. Mais qu'est-ce que l'histoire d'un serveur? Siana va nous en dire un petit peu plus.
L'histoire d'un serveur, ça fait aussi son charme et puis j'ai envie de dire son particularisme local. C'est-à-dire que certains serveurs, on pourra lancer un certain type de projet parce qu'il y a une base pour, alors que d'autres serveurs sont plus frileux. Par exemple, sur certains serveurs, c'est très rare de trouver une organisation de l'ombre malfaisante. On aura du mal à en trouver, il n'y aura que des gentils, et on aura du mal à finalement trouver sa place parfois au sein de toutes ces guildes. C'est pareil, d'autres serveurs, on trouvera que des gens un peu malfaisants, et les gens un peu bien, un peu armure brillante, tout ça, de paladins, ils ne seront pas très nombreux de gens justiciers, loyaux. Donc l'histoire d'un serveur influence, j'ai envie de dire, déjà les guildes, les relations qu'ont les guildes et les projets qui peuvent être menés aussi. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'histoire d'un serveur, il y a des serveurs qui sont propices, j'ai envie de dire, à certaines organisations multi-guildes. Il y a une longue tradition, j'ai envie de dire, depuis BC, de projets qui se fait à plusieurs guildes, de projets qui rassemblent la communauté. On pense notamment au Conseil de Lune-Argent, au Conseil de Guerre, au Conseil Noir des Réprouvés, etc. Il y a un certain nombre de projets qui ont été lancés et qui ont toujours eu un impact fort. Après, sur certains serveurs, on ne retrouvera pas cette dynamique-là. L'histoire ne s'est pas faite ainsi. Et lancer un projet global pourrait être mal vu par un nouvel arrivant, par exemple, bah, c'est pas dans la culture. Donc, il y a une histoire, c'est un atout, mais c'est aussi un poids que traîne chaque serveur. Donc là, il faut bien prendre en considération quand on est nouveau sur un serveur, c'est qu'il faut se familiariser avec son histoire. Et se familiariser avec les guildes existantes pour pouvoir répondre au mieux à ce qui existe, à ce qui manque peut-être, à ce qui pourrait être fait de manière complémentaire, mais de manière à pouvoir avoir, j'ai envie de dire, un impact large, sans froisser des gens, sans qu'il y ait de difficultés. Alors certains serveurs ont aussi une tradition plus forte d'ouverture vers les nouveaux projets et les nouvelles personnes que d'autres, mais je ne citerai pas de nom. En tout cas en négatif, en positif, bien sûr, le culte de la Rive Noire que nous animons ici est un serveur qui accueille les nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouvelles personnes sans difficulté.
Toutes ces informations sur ces anciens projets, sur ces nouveaux projets, sur cette histoire, où peut-on la trouver ?
Pour la plupart des serveurs RP, il y a généralement un forum RP officiel qui est lancé, que vous trouverez souvent dans votre section de forum propre, votre royaume, sur les forums officiels de Blizzard. Généralement, ils sont indiqués, il y a publicité pour. Sinon, vous demandez aux grosses guildes RP, elles doivent savoir. Là, c'est en général la source d'information principale que vous pouvez tirer, qui va vous permettre de mieux connaître l'environnement sur lequel vous jouez. Alors forcément, il y a aussi votre royaume de manière officielle sur les serveurs de Blizzard. Bon, généralement, les rôlistes sont plus frileux, on les trouve pas toujours là-dedans. Voilà, l'élément principal, c'est vraiment le forum RP officiel. En plus de ça, il y a certaines guildes parfois qui ont des ouvertures particulières, j'ai envie de dire, et qui présentent de manière publique des débats ou des éléments d'interaction. Donc même si vous ne faites pas partie de la guilde en question, des fois elles ouvrent de manière assez large à elles-mêmes et à d'autres guildes. Par exemple, bon, chez nous, on n'a pas de forum de guildes propre, mais on a le forum des maisons F200. Donc en général, on peut trouver un peu tout le lore F200 sur notre forum et tous les débats un petit peu sont dessus. C'est-à-dire qu'on a en plus de notre forum de guilde, on fait un peu une vitrine ouverte un peu sur l'ensemble des projets F200 du serveur. C'est une vitrine qui permet d'exposer tous les projets F200 et qui permet à tout le monde de trouver son bonheur dedans et puis bah, d'interagir et de participer là-dessus. Vous trouvez parfois sur le forum officiel RP de Blizzard pas mal d'informations sur ce qui se fait globalement sur les serveurs RP aussi, pas que sur un serveur propre, et donc du coup ça permet aussi de mieux comprendre la culture de certains serveurs, son historique, etc.
Oui, ne pas négliger non plus de passer par les forums RP des guildes, tout simplement, qui ont leur histoire, pour connaître bien sûr l'histoire de cette guilde, mais qui ont parfois des parts d'histoire du serveur, tout simplement, parce que ces guildes ont participé à des projets, ou ont des idées, et les font partager à tous, et ne le mettent pas forcément sur le forum RP officiel, c'est-à-dire géré par des rôlistes pour des rôlistes.
Une autre source d'information qui peut être intéressante, c'est des fois les joueurs de guildes qui sont établis depuis longtemps ou des joueurs qui sont là depuis longtemps sur les serveurs pourront vous renseigner un petit peu sur vos questions et sur vos interrogations. C'est souvent ces joueurs-là qui peuvent vous aider aussi.
En clair, n'hésitez pas à aller voir le petit vieux sur le banc à côté. Il saura peut-être des choses.
Généralement, les anciens rôlistes, ils aiment bien raconter les anciennes histoires.
Voilà. N'hésitez jamais à fouiner les archives. Toujours de bonnes lectures. Bien. Question qui peut se poser également, c'est sur cette histoire du serveur. Comme l'histoire en général, qui l'écrit ? Est-ce qu'il y a toujours le meilleur des points de vue ? Est-ce qu'il y a toujours les deux points de vue qui sont exposés ? Ou est-ce que c'est une impartialité ? C'est une question qu'on peut se poser. Qui écrit cette histoire ?
Il y a trois possibilités. soit il y a une seule des guildes qui écrit quelque chose là-dessus, parce que ça s'est plus ou moins bien passé, parce que du coup il y aura qu'un seul point de vue qui sera resté, j'ai envie de dire, dans les archives, parce qu'il n'y en aura qu'une qui aura pu donner son point de vue. Donc bon, ça sera forcément partiel, faut en tenir compte, mais à mon avis c'est pas le principal. Après, il y a compte rendu commun, rédigé par les deux guildes suite à un event, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc là-dessus, vous pouvez avoir souvent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été écrit. La troisième possibilité, c'est chacune des guildes écrit sa version de l'histoire. C'est toujours rigolo à voir, c'est toujours intéressant à lire, il y a toujours souvent des gros écarts, de points de vue, de perception, c'est toujours du pur bonheur. Et il y a la version Joker qui existe un peu sur le cul, qui est assez rare, c'est, on va dire, un personnage neutre qui va raconter l'histoire, qui n'est pas dans une des deux guildes, et qui va raconter un peu ce qui s'est passé, parce que lui est bien au courant, parce que c'est monsieur Comer du serveur ou autre, et que lui il saura un peu tout. Donc nous, sur le culte, on a des joueurs comme ça, un peu neutres, et puis qui sont capables de se retirer pour pouvoir raconter les histoires de manière assez neutre, et qui demandent même des fois parfois aux guildes de leur transmettre les deux communiqués pour qu'ils puissent soit mettre en rapport, soit faire une synthèse plutôt impartiale. Donc voilà, il y a plusieurs versions. Hein. Il n'y a pas de meilleure version l'une que l'autre, mais globalement, moi, si j'en ai une que je soutiendrais, c'est quand même chaque guilde écrit son point de vue, ou alors un compte-rendu global des deux guildes qui est mis en commun.
D'ailleurs, en parlant d'histoire, je viens à l'esprit une petite question, enfin une petite annonce, on dirait, un petit peu, concernant l'histoire. C'est l'histoire propre du culte, l'histoire actuelle. Nous ne crachons pas sur la venue et l'intervention d'un reporter de l'extrême, reporter du quotidien du RP, qui pourrait intervenir parmi nous pour relater quelques faits, histoires des plus dramatiques ou drôlatiques. Bien, passons à la chronique du Père Varka. Père Varka, de quoi allez-nous vous parler aujourd'hui ?
Alors, je vais aborder l'histoire de Jaina, plutôt l'histoire récente, comment elle a un peu perdu la boule avec la disparition de Terramor.
Perdu la boule
Si.
Les allées contesteront.
Ouais, je suis désolé, mais la Horde l'a bien cherchée.
Oula, un petit peu. Hein.
Fallait pas lancer une bombe sur la ville qu'elle a construite.
Oui.
Et en même temps, quelle idée de mettre sa capitale au bord de la mer.
Voilà.
Père Varka, raconte-nous une histoire, Père Varka.
Une histoire, d'accord, si tu veux. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Jaina. La petite Jaina qui est devenue bien grande et qui aime bien foutre le bordel, hein, on dirait. Bien, allons-y. Lorsqu'elle était petite, Jaina fut un jour conduite à Dalaran. Les mages sentirent alors son potentiel magique et Antonidas, archimage du Kirin Tor, la prit sous son aile. Elle étudia ainsi plusieurs années. En tant que fille du roi de Kul'Tiras, Daelin Port-Vaillant, elle finit par rencontrer le prince Arthas Menethil. Je ne vais pas citer ici sa relation car c'est un peu long et tout le monde la connaît. Donc je vais directement passer aux événements assez récents qui furent que Jaina soit un peu instable, je dirais. Il est révélé que dans Mist of Pandaria, Terramor sera détruite par les forces de la Horde dirigées par Garrosh Hurlenfer. Jaina se joint à Kalegos dans la lutte contre la Horde afin d'aider à récupérer un puissant artefact du vol draconique bleu, l'iris de focalisation. Elle survécut à l'attaque, mais vit la Horde sous un nouveau jour, avec un nouvel antagonisme envers les orques et leur chef de guerre. Par la suite, Jaina est nommée dirigeante du Kirin Tor en tant que successeur de Ronin. Mais suite aux événements de l'opération du bouclier, Anduin Wrynn alla parler avec elle de l'incident de Terramor et de sa position par rapport à la Horde depuis son avènement en tant que chef du Kirin Tor. Elle lui déclara que celui-ci resterait neutre, car le Concorde Argenté et les Saccages Soleil se doivent de coopérer pour devenir un phare pour la paix entre la Horde et l'Alliance, car ces derniers ne partagent pas toutes les décisions de Garrosh sur l'Enfer. De plus, Dalaran est le foyer des elfes et elle est même prête à pardonner à la Horde pour Terramor. Elle croit fermement qu'ils ont un bon fond. Malgré tout cela, après un accident survenu à Darnassus, la Horde s'y infiltra pour y voler la cloche divine, un puissant artefact mogu ayant le pouvoir de détruire des armées entières. Dans les mains de Garrosh, cela aurait eu une conséquence effroyable. Les voleurs ont laissé des traces de magie arcanique menant à un portail sur Dalaran. Jaina, se sentant trahie une nouvelle fois par la Horde, décida de purger Dalaran de tous les elfes de sang présents dans la ville, ce qui se rendait étant envoyé dans le Fort Pourpre, tandis que les plus résistants étaient exécutés avec l'aide de Varessa Courcevent. Jaina jura ensuite l'allégeance du Kirin Tor à l'Alliance. Et maintenant, nous allons essayer de connaître le point de vue de différentes personnes par rapport à cette nouvelle phase de Jaina qui n'a pas l'air très contente. Donc nous allons appeler ensemble une personne ou une autre pour savoir, selon elle, pourquoi Jaina a-t-elle basculé dans une folie meurtrière aussi puissante.
Mais papy, il n'y a pas de téléphone, on est dans World of Warcraft.
Ta gueule, c'est magique. Bien, appelons. Ah, voilà. Allô ?
Non, mais allô, quoi.
Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour, ce serait pour un petit sondage. Pour vous, pourquoi Jaina Port-Vaillant a-t-elle pété une durite comme ça ?
T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux.
Donc elle a pas de shampoing, donc elle a pété un câble, c'est ça ?
Vous me recevez ? T'es une fille, t'as pas de shampoing.
Ouais. Bon, je pense qu'on va raccrocher maintenant, hein, parce que ça commence à... Hein. Voilà, c'est bon, hein. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour les interviews téléphoniques. Je tiens quand même à ma santé mentale et physique. Et bien, sur ce, mes amis, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Et n'oubliez pas d'acheter votre shampoing, sinon vous allez finir comme Jaina et ce serait un petit peu embêtant.
Passons donc à la rubrique ouverte, et nous allons commencer par la présentation des guildes. Aujourd'hui, nous avons deux fiers représentants, un de la fierté de Crowley, avec donc Monsieur Albertan, et qui va nous parler de la fierté en premier, après vous.
Alors, la fierté, c'est une guilde qui s'est toujours voulue depuis sa création et... pour encore longtemps, j'y compte bien, RP à 100%, c'est-à-dire que même les grades, les promotions et rétrogradations sont toujours motivées par et pour des raisons RP. La guilde est basée en Gilneas, le principe c'est de resécuriser le territoire gilnéen et protéger les gilnéens qui ont dû subir l'exode de la part des réprouvés. Mais ça n'empêche pas d'intervenir ailleurs dans le monde si, en cas d'appel. Niveau activité PVE et PVP, c'est pas notre priorité. Il n'y a pas de demande de présence particulière. Juste être là de temps à autre. Le canal est RP et la guilde commence à reprendre de l'activité après avoir bien dormi, après d'autres événements qui ont fait bouger certaines choses. Et on est plutôt sur une pente à remonter. Aléra est celle qui s'investit actuellement le plus dans ce domaine-là et je le remercie, ne pouvant m'en occuper personnellement. Et puis... si jamais vous voulez jouer un RP de Gilnéen, qu'il soit maudit ou non, qu'il soit noble ou pas, d'ailleurs plutôt pas car des nobles ont commencé à en avoir à l'appel, vous êtes les bienvenus.
Bien. Alors, à savoir, on peut vous contacter, qui peut-on contacter en jeu ou peut-être via forum?
Donc, on a un forum, oui. Donc, forum, guild, fierté de Crowley sur le culte, ça se trouve très bien. Donc la personne la plus présente à contacter peut-être de façon privilégiée, donc c'est Aléra, A-L-A-E-R-A, si je ne me trompe pas. Et puis elle Ça devrait se passer. On passe par une présentation forum, parce que ça permet de connaître un petit peu le personnage, de voir. Mais il y a tout de même un recrutement RP qui se fait de façon systématique. Sachant que parfois, si jamais la personne, on a eu l'occasion de RP avant, qu'on la connaît, il est possible d'y avoir un guildage entre guillemets HRP avant l'entretien qui se fera RP et l'intégration réelle à l'ordre.
Bien. Merci pour cette présentation, Albertan. Nous sommes toujours ravis de recevoir des ennemis de l'Alliance. Désolé. Donc, maintenant, nous avons donc lié un officier de la Nazgal SRL qui va nous parler de la Nazgal plus en détail, car nous devons vous avouer que le communiqué que nous avions fait la dernière fois était un peu imprécis.
Oui, alors, donc, la Nazgal SRL est une guilde qui a été fondée début janvier. C'est une société marchande dont le but est de dominer le marché, mais honnêtement, elle est donc dirigée par Nazgal, qui est un gobelin honnête, entre parenthèses, ce qui est assez original pour un gobelin. Mais la guilde n'est pas que marchande, elle est PVP aussi. C'est la section Finlam. Alors les Finlam, RP parlant, c'est pour protéger les convois, ou tout simplement taper l'Alliance, mais ça c'est justifiable dans tous les cas. La guilde étant nouvelle, essaye de se faire une place. Pour l'instant, ça se débrouille pas trop mal. La guilde va organiser quelques marchés, notamment à l'une d'argent. Le guildage peut être HRP, puis faire une cérémonie RP pour accueillir les nouveaux membres, ou alors une cérémonie RP suivie d'un guildage. La société étant marchande, elle devait rester neutre, mais malheureusement, il y a eu quelques conflits, et quelques alliances même.
Alors peut-être que vous avez entendu parler, en allant dans un des bars de Baïfon, ou même dans quelques bars de Grima, il y a eu une petite escarmouche qui a provoqué quelques morts et quelques contusions entre l'organisation mafieuse Profit et l'organisation donc de la Nazgal SRL. Il en est découlé donc la prise de Baïfon par la Nazgal et la création bientôt d'une fédération dont vous aurez bientôt quelques suppléments d'informations sur le forum officiel et sur le forum du culte, permettant d'en découvrir un petit peu plus là-dessus. Mais qu'en est-il du côté de l'Alliance ?
Il y a le fait que les interactions suite au déboire du démoniste Vulpes se poursuivent du côté d'Arcanum. Et visiblement, à l'heure actuelle, la Trinité est rompue. Atominion a pris le contrôle de l'ordre et globalement, il y a eu une bonne grosse purge.
Alors, à propos de purge, il y a eu une purge de Dalaran qui est effectuée par Jainak. Et suite à ça, avec la maison Selwebelor et les Arcanum Sanctus, on a décidé de faire une petite campagne RP pour animer là-dessus. Et donc, il y a eu quelques accrochages récemment à Dalaran entre nos membres et les leurs. Donc, certains événements sombres sont en cours.
Voilà, des petites escarmouches qui bientôt se transformeront en guerre rangée. Bref, non, en fait, je m'arrête. Ou pas. Sinon, il y a la taverne, on peut jouer ça au bras de fer, mais bon, je suis pas sûr que ça plaise à nos dirigeants. J'en avais parlé, vous avez peut-être dû voir le message sur le forum communautaire et sur le forum RP, c'était le tournoi de mascotte. Donc ça s'est très bien passé. Bon, gestion un peu chaotique, parce que, comme vous le savez bien, les tournois de mascotte, c'est difficile à gérer, surtout à arbitrer. Mais nous avons eu deux grands gagnants. Donc, pour le tournoi de niveau 25, c'était dénommé Sébastien qui a gagné, membre de l'Alliance, qui a exterminé ses adversaires avec. En fait, qui les a clairement écrasés. Parce qu'on a dû réduire le nombre de combats pour éviter les échymoses. Du côté du tournoi de niveau 10, c'est le mort-vivant Muller qui a gagné et qui a remporté donc le premier prix. Donc, un événement qui s'est très bien passé. Et qui sera sûrement renouvelé, On verra ça dans les temps qui arrivent, et toujours avec des magnifiques mascottes à remporter. Donc, préparez-vous et entraînez-vous.
Le marché Nazgalien se déroulera deux fois par mois, donc au bazar de Lune d'Argent. Le premier sera le jeudi 21 mars à 21h. Nous vendrons des mascottes, de la transmo et même des mécabécanes, tout autre objet divers et variés. Donc venez nombreux et n'hésitez pas.
D'ailleurs, en parlant de marché, je viens de souvenir une petite information. Dimanche dernier a eu lieu le marché de Cabestan, ce marché noir aux allures de regroupement mafieux où on peut plus se faire couper la bourse que la dépenser. Il y a eu toujours la traditionnelle course de Cabestan, et c'est donc le démoniste Eleven qui a remporté le prix, comme le mois précédent. Il a été le plus rapide, chance pour lui. Bien sûr, toujours des ventes prohibitives, donc n'oubliez pas de consulter le forum communautaire pour être au courant également de ce marché noir aux allures plus enfumées, dirons-nous. Autre information importante, qui peut-être vous intéressera, et au vu des quelques réactions que j'ai eues au moment de l'annonce de cet événement, et j'ai eu beaucoup de réactions assez rapides, c'est le concours de Miss Azeroth, qui se tiendra la première semaine d'avril, rapport au pot de vin qu'on doit verser aux forêts de Sombre Lune pour pouvoir avoir accès à leur estrade, surtout pour que les Twin Chieftains viennent animer de temps en temps les entr'actes, pour que les concurrentes puissent se changer entre deux représentations. Donc le traditionnel concours de Miss Azeroth se déroulera début avril. J'en saurai plus en regardant assidûment le forum du culte, tout simplement. A savoir que pour le premier prix, ce sera toujours une monture, parce que les Miss reçoivent toujours un véhicule. Voilà, après à savoir qu'est-ce que ce sera exactement, nous verrons. Surprise!
Moi j'étais bien content de recevoir ma bécane l'année dernière.
Bien sûr, le premier prix sera remis par l'ancienne Miss, et ainsi que la couronne.
Oui, bah c'était vraiment un plaisir de participer l'année dernière, et j'espère que ce sera encore mieux cette fois.
Encore mieux, on verra.
Ou au moins et... aussi bien.
Voilà, on va essayer. À savoir que, oui, je parle du concours de Miss, mais l'année dernière, je n'ai pas pris le temps d'organiser le concours des Misters. Parce que n'oublions pas que pour avoir des Miss, il faut aussi des Misters. Donc, Mister Azeroth se tiendra également courant du mois d'avril, mais cette fois au tournoi d'argent. Parce qu'il faudra faire plus preuve de force, peut-être, que de beauté, de représentation. Bon, c'est un peu misogyne dans la présentation, je sais, mais c'est les Misters.
Bon, sinon, si vous cherchez à acheter des sacs grande capacité, des sacoches royales 28, la grande couturière Sienna Selweveler pourra vous faire de très bons sacs à prix raisonnable.
Enfin, à peu près raisonnable.
Des prix signes d'oreille, quoi.
Ouais, donc exorbitant. C'est signe d'oreille, hein. Ce serait gobelin, ce serait inachetable.
On va dire que c'est de la qualité à ton prix. Enfin, je crois. Ah oui, sinon, annonce importante. Je recherche un trotteur rose de la fête du printemps. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages pour vos propositions de vente. N'oubliez pas, si vous avez un message à faire passer, une pub à faire passer, tout simplement, ou juste pour pouvoir intervenir et donner votre avis durant le podcult, n'hésitez pas à nous contacter en jeu ou via les différents forums et plateformes communautaires pour eh bien, apporter votre pierre à l'édifice. Parce que n'oubliez pas que ce podcult, c'est votre podcult. Pour conclure ce podcult, nous avons vu beaucoup de choses cet épisode. Nous avons pu voir l'importance de l'histoire qui, d'un côté, est liée également au débat concernant le PVP, parce que ça rentre également en compte dans l'histoire. Donc, comme quoi, en RP, tout est un peu lié. Hein. Donc, ne l'oublions pas. Nous avons vu une présentation de guildes fort intéressante qui existe depuis certaines depuis un moment, d'autres non, et qu'on espère qu'elles vont s'agrandir, perdurer et non pas dominer le monde. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé. Merci à vous.
Ciao. Merci, merci pour l'invitation, à très bientôt et au plaisir d'animer cette rubrique et de pouvoir continuer à pouvoir communiquer sur l'activité RP du culte.
À la prochaine.
Au revoir à tous.
Au revoir tout le monde.
Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine et salut les cultiens.